Alors moi, je voulais dire que en fait, je l'avais pas trouvé si parfait que ça, l'enseignant, parce que
qui a dit qu'il était parfait ?
Tout le monde a l'air de dire qu'il était extraordinaire. Alors moi, j'ai pas dit qu'il était mauvais non plus. Attendez. Hein. J'étais surprise quand vous avez pris la défense, enfin vous avez voulu avec vos collègues prendre la défense en quelque sorte de cet élève qui vous avait insulté, et quand vous avez expliqué tout ce qu'il pouvait y avoir. Qui n'avait pas été voulu par lui. Moi, j'ai regretté, enfin, en tout cas, j'étais surprise que vous n'ayez pas fait ce choix-là. pour moi, la bagarre a commencé parce que moi, j'ai senti la blessure chez l'élève au moment où les délégués ont dit, vous avez dit qu'il était limité. Et pour moi, tout avait démarré là. Je me suis dit, c'est drôle, comment ça se fait qu'il n'a pas repris après ? Enfin, ça, c'est une remarque que je me suis faite en regardant le film. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec ce que disait le monsieur tout à l'heure sur la scène du film où l'élève dit qu'elle n'a rien appris. Parce que moi, c'est pas ça. En fait, ce que j'ai retenu, c'est qu'elle dit ces mots, je n'ai rien appris. Mais elle dit aussi, je ne veux pas aller en professionnel. En fait, moi, j'ai senti là comme un moment, finalement, d'interrogation sur le sens de ce qu'elle était en train de faire. Et donc, je ne l'ai pas du tout, moi, perçu comme quelque chose de final et définitif et d'échec de l'école. Enfin bon, ça a été ma façon à moi de regarder cette scène-là.
Non, mais enfin, en même temps, finalement, cette scène ne représente qu'elle-même, encore une fois. Cette fille dit ça, elle n'a rien compris. Je pense qu'à mon avis, elle en a plus compris qu'est-ce qu'elle en dit, mais là, elle est dans un moment un peu déprimé qui fait qu'elle force un peu le trait, ce que le prof lui fait remarquer. Et puis après, elle lâche ce mot qui, dans l'esprit de pas mal d'élèves, est l'équivalent d'échec, qui s'appelle professionnel. Voilà. Donc ça, on voulait juste rendre compte de ça. C'est que souvent, les élèves prennent le professionnel comme une espèce de... Voilà, c'est le dépotoir, et donc c'est l'autre nom de l'échec. Elle pourrait dire « je vais échouer », elle dit « je vais aller dans le professionnel ». Il y a un truc qui me fait peur dans votre prise de parole, madame, c'est votre passé composé là. D'abord, vous conjuguez très mal, et on va le reprendre tous les deux après. Ah merde, je m'en excuse, c'était pas mon idée. Non mais vous parlez au passé composé comme si des choses avaient vraiment eu lieu, vous savez. Ah, il a fait ça, et vous avez fait ça avec vos collègues. Non, c'est voilà. Ben oui, mais c'est... Non, mais justement, c'est pour dire aussi que tout ce qui est autour du conseil de discipline, etc., on fait exprès de faire merder le prof, quoi. Hein, parce que s'il merde pas, c'est pas intéressant pour la fiction. Si le prof est parfait, ça marche pas. Donc il faut qu'il soit friable. Et à votre avis, ça part de scolairement limité, mais c'est pas à votre avis, c'est dans le film, c'est objectivement dans le film. C'est là que se déclenche l'incident. C'est là où Suleyman pète les plombs, c'est très clairement là. Donc c'est vraiment ce qu'on avait écrit, et c'est le moment où le prof, c'est le vrai écart de langage que fait le prof, c'est celui-là. Alors ce que les filles oublient de dire, et c'est pour ça que tout le monde a tort et raison dans cette affaire, elles ont raison de rappeler ça, elles ont quand même tort d'oublier de dire quand même que le prof avait descendu Suleyman défendu Suleyman devant tout le monde pendant une demi-heure avant, quoi. Donc elles sont très injustes, ce qui va leur valoir l'insulte du prof, qui est une insulte qu'il ne devrait pas proférer, en même temps qui était un peu légitime à ce moment-là. Voilà. On a essayé d'écrire toute cette séquence de sorte que tout le monde ait raison et tort à la fois. C'est-à-dire que chacun réagisse de façon logique et que ça finisse par créer du désastre sans qu'on l'ait vu venir. Sans que ce soit... C'est-à-dire que Suleyman va être viré pour une arcade sourcilière qu'il n'a pas voulu vraiment faire saigner, pas du tout même. Mais voilà, objectivement, il a fait quelque chose de pas bien, donc il sera exclu. Et ben le prof, c'est pareil. Finalement, ça partait pas d'une mauvaise intention de dire pétasse, machin, pas d'une très mauvaise intention, mais évidemment, ça va être extrémisé. Et scolairement limité intervenait à un moment où il était plutôt gentil avec Suleyman, disant qu'il faisait des choses bien, c'est ce qui va conduire au désastre. Voilà. On voulait créer une espèce de processus de désastre un peu dont personne serait responsable, et à la fois tout le monde.
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traiter l'attitude d'un élève que vous avez déjà eu ?
Traiter quoi ?
Traiter l'attitude d'un élève, comme vous avez traité l'attitude d'une élève de pétasse.
Oui. Non, mais l'épisode pétasse, il est dans le livre, je l'ai vécu, je l'ai raconté, et on l'a mis dans le film sous un mode un peu différent du livre. Et c'est un mode un peu différent de ce que j'avais vécu. Une fois, j'ai traité les élèves de pétasse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils avaient eu une attitude de pétasse, etc. Ce qui a déclenché une petite tempête, beaucoup moins grave que celle du film, mais une petite tempête quand même. Donc je l'ai fait parce que je ne trouvais pas ça extrêmement insultant, en tout cas à mes yeux. Et elles m'ont fait comprendre qu'en fait, pour elles, ça l'était. Donc il y avait malentendu. Et après, c'était parti. Je ne pouvais plus rien retenir. Mais il y a une espèce d'happy end dans le film sur cette histoire de pétasse, c'est quand Esmeralda dit c'est pas un livre de pétasse. Alors dans la vraie vie et dans le livre, ça s'était terminé un peu comme ça, sauf que c'est moi qui avais dit dans le livre, c'est Esmeralda qui vient me voir, enfin elle s'appelle pas Esmeralda dans le livre, elle s'appelle Sandra. Elle dit, ah, monsieur, vous avez lu La République de Platon, et donc on parle de La République de Platon. Et elle part, on s'explique un peu là-dessus, elle part, je dis c'est vachement bien que tu lises ça, hop. Elle sort de la classe et au moment où elle sort, j'ai dit, bah dis donc, c'est bien parce que c'est pas un livre de pétasse. Et c'était une façon, c'était une espèce d'happy end dans le livre. Alors Laurent, quand il a lu cette scène, il a dit, ah, ça serait vachement bien qu'il y ait une happy end de cette histoire de pétasse pour bien montrer que c'était pas si grave. Simplement, c'est pas toi qui vas le dire, c'est Esmeralda. Ça sera plus intéressant si c'est elle qui le dit. J'ai réfléchi, j'ai dit, ouais, t'as raison, ok, on a qu'à faire ça. Et elle l'a dit tellement bien que je trouve la scène très bien. Enfin, on était assez satisfaits.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est pas une question, c'est un commentaire. Ce qui m'a interpellée, c'est cette question à plusieurs reprises, ou ce sujet qui est sorti à plusieurs reprises, sur l'utilité d'apprendre des choses, sur l'utilité de la connaissance. Parce que finalement, effectivement, dans la réalité, dans les moyens de communication, télé, quotidien, discours politique, effectivement, des fois, on se pose la question de pourquoi on doit vraiment apprendre tellement de choses quand il y a une telle pauvreté, des fois, des discours, une telle pauvreté d'attitudes que finalement, on s'est dit, on se sent un peu étrange. On entend des discours comme pour des imbéciles hein, et finalement, je ne saurais pas quoi répondre à des enfants sur cette question-là. Parce que même quand on est adulte, on nous dit tellement les études que tu as faites sont inutiles. Je ne sais pas pourquoi tu as fait des études de philo, tu es bête. Finalement, tu te retrouves à avoir un boulot de n'importe quoi. Et ça m'a interpellée parce qu'en même temps, j'ai senti que ces gamins, ils étaient très exposés devant une société qui leur dit qu'il faut être, il faut gagner de l'argent, il faut être habilité pour faire des choses. Et pas tellement se trouver soi-même, pas tellement être riche, pas tellement donner une complexité à la vie. Alors, ce n'est pas une question en soi, parce qu'il n'y a pas de... Mais simplement, ça m'a interpellée, parce qu'en même temps, ces discours, je les sentais présents dans ma vie, donc je ne me suis pas sentie hors de cette classe. Je me sentais assise comme tous ces élèves à dire, c'est vrai, pourquoi il faut apprendre ça.
Ouais, bah, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, ça me plaît... Je le dirais peut-être pas exactement comme vous le dites, mais il y a un truc auquel je suis sensible, c'est que il y a des choses qui sont présupposées comme évidentes et qu'on n'interroge plus. Et effectivement, il est évident que c'est bien d'apprendre. Bah ouais, non, mais peut-être que c'est bien, mais il va falloir le prouver, il va falloir le rejustifier ce discours. C'est un des problèmes de l'école, parce que l'école, et je pense, un des grands problèmes de l'école, je ne suis pas le premier à le dire, ça fait 50 ans que plein de gens le disent, mais qu'on n'écoute pas, c'est qu'en fait, les gamins, ils arrivent à l'école, on leur explique pas vraiment pourquoi ils sont là, pas vraiment. Et donc, immédiatement, bah, c'est comme ça, il y a l'école, on va faire ça. Il y aura des maths, de la science physique, des sciences naturelles, du français, une langue, pas deux, une. Puis après deux, bon, d'accord. Et on n'explique pas pourquoi. On n'explique pas pourquoi on ne fait pas de la guitare électrique en sixième. Pourquoi pas ? Pourquoi faire des sciences naturelles et pas de la guitare électrique ? Il faut expliquer. Peut-être que c'est vachement juste hein, de faire des sciences nat, mais il faut l'expliquer, quoi. Faudrait... Ou peut-être l'historiciser, faute de pouvoir l'expliquer. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien qu'en sixième, on explique aux gamins, bah tiens, en fait, les matières, elles ont été décidées en 1903, c'est là qu'est apparu les sciences physiques. Alors pourquoi ? Bah parce qu'à l'époque, on considérait que c'était important d'avoir la physique, parce qu'on avait besoin d'ingénieurs. Je sais pas, il y aurait plein de trucs à dire intéressants sur, qu'est-ce qu'on fout là ? C'est quoi l'école ? Elle a été obligatoire, mais pourquoi en fait ? Pourquoi est-ce qu'on a rendu l'école obligatoire ? Ce serait bien d'expliquer. D'abord, c'est pas évident d'ailleurs comme sujet parce qu'elle a été rendue obligatoire, pas forcément pour des histoires d'émancipation, c'est aussi parce qu'on avait besoin de bras. Elle a été rendue obligatoire aussi parce qu'on voulait cadrer le peuple. C'était une des motivations impures de l'école. Et puis aussi des bonnes motivations, du genre éduquer les gens, les épanouir, en faire des bons citoyens. C'est un peu tout ça. Je trouve que ça donnerait des cours géniaux déjà d'expliquer tout ça. On perdrait pas du tout son temps, hein. Ça serait déjà du savoir, de la culture, sauf qu'en plus on se poserait tous ensemble la question de savoir pourquoi on est là. Au lieu de quoi, on décrète, il y aura l'école, on y apprendra ça, et maintenant on commence le cours, sortez vos affaires. C'est pas bon, c'est pas des bonnes... Parce que pour un gamin qui fait du foot, la question se pose pas, c'est lui qui veut aller au club de foot, donc lui il sait pourquoi il est là. Et c'est pas obligatoire, il sait, il désire jouer au foot, il sait, parce que c'est pour être avec ses potes, parce qu'il veut devenir joueur professionnel, parce que pour s'amuser, il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, il n'y a pas de problème, hein, les gamins, moi j'ai fait du foot, ça, pour nous faire des tours de terrain, il n'y a pas de problème, hein, on les faisait, hein, puisqu'on était contents d'être là, on voulait le faire. Alors qu'à l'école, bah, on n'est pas contents d'être là.
Non, en fait, comme justement on cite la République de Platon, finalement c'est un retour aux sources. Des fois, il faut se poser les questions qu'on pense qui sont démodées, finalement, elles ne sont pas du tout. On devrait les reposer à nouveau et répondre chacun. Les profs, essayer de répondre devant ses élèves, c'est difficile, hein, mais il faut le faire.
Oui, c'est difficile, mais même si on n'y arrive pas, déjà que la question soit posée et qu'elle fasse sujet de réflexion, enfin, c'est très bien. Ça, déjà, on aura gagné notre journée. Calmez-vous. On m'a demandé pas de bagarre. Je suis dépositaire de l'ordre dans cette salle. Oui, mais bon, oui. Mais j'ai l'impression que votre fille est un peu coquine. Je sais pas, je... Non, mais c'est des affaires extrêmement compliquées, madame. Il y a 800 000 enseignants, je sais plus, 700 000. Combien d'élèves? Des millions? Pour avoir une vision un peu précise de l'état réel de l'école... Tout à l'heure, je disais que ce film était vraiment... Non, mais... Pas plus que ce film qui fait 2 heures, le témoignage de votre fille n'aura valeur universelle, madame. Je suis pas là pour défendre les profs, hein, mais... Mais on ne le faisait pas il y a 50 ans non plus. On ne le faisait pas il y a 50 ans non plus. Je dirais même qu'on le fait. Non, c'est pas vrai. Mais non. Non, ça c'est pas vrai. En tout cas, pas dans mon école à moi quand j'étais élève. Bon, on va respecter un petit peu une règle de jeu qui s'appelle le micro, hein, si vous voulez bien. Donc, allez-y.
Alors, c'est pas du tout sur les professeurs. C'est, vous parliez tout à l'heure de perdre du temps. Et dans le film, et je pense que c'est volontaire, il y a une vraie... Le temps file. Ça va très vite. Et en même temps, le professeur parle, et surtout au début, du fait de on perd du temps. On n'a pas de temps, on perd du temps. Et en même temps, il en perd tout le temps. Dans une logique d'efficacité, voilà, il passe un temps énorme à discuter et à perdre du temps à discuter avec ses élèves. Et c'est, moi, je trouve une problématique éducative. Enfin, c'est intéressant, cette notion de est-ce qu'on perd vraiment du temps quand on en perd en cours ? Voilà.
Ah non, moi je suis convaincu que... Mais ça je déborde un peu le rôle, hein, le personnage et tout ça. Moi, je suis convaincu qu'il n'en perd pas. C'est-à-dire qu'au moment où... Moi, pour moi, la scène centrale du film, très clairement, je veux dire, de mon point de vue à moi, ce qui est un point de vue quand même un peu subjectif, bien sûr, c'est la scène de l'homosexualité. Ça, c'est pour moi, c'est la scène qui dit tout sur ce prof. Non pas sur sa sexualité, en fait, puisque ça, c'est pas le vrai sujet de cette scène. C'est que je pense qu'un élève qui interpelle... Déjà, le prof, on voit bien comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'il entend rire au fond de la classe et plutôt que de dire « taisez-vous », il a envie de savoir pourquoi ça se marre et pourquoi ça parle. Donc déjà, il dit « ah, il se passe quelque chose. Ah, ça m'intéresse, là, je sens qu'il se passe un truc. Et que ça va... Il y a de la matière, là-bas. » Et puis la matière... Et d'ailleurs, dans le livre où je racontais cette scène, il y avait une phrase de narrateur. Alors, il n'y en a pas dans le film des phrases de narrateur qui disait « vous me croirez si vous voudrez, mais j'avais compris dès le début. » C'est-à-dire que je sais très très bien ce qu'il va me demander. Je parle d'une espèce d'intuition, comme ça, de dixième sens. Et donc, ça m'intéresse, bien sûr. Ça m'intéresse qu'ils me demandent ça. Qu'ils me demandent, ah, y en a qui disent que vous êtes homosexuel, etc. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que ça va permettre de mettre à jour sa petite homophobie, sa petite gêne par rapport à ça. Il n'y a pas plus pédago que ça. Il n'y a pas plus intéressant, non pas que ce sujet, mais que d'aller, comme ça, mettre à jour le cliché qu'a dans la tête ce gamin sur ah, ça a l'air de te gêner d'avoir un prof homo, enfin, si jamais c'était le cas, etc. Ben, c'est passionnant. C'est plus intéressant que le COD. J'ai beaucoup de respect pour le COD, mais alors là, moi, je ne perds pas du tout mon temps quand je fais ça, pas du tout. Au contraire, même, je pense que là, c'est peut-être le moment où il est le plus performant en termes d'un point de vue socratique, parce qu'il arrive très très bien à mettre à jour les contradictions de Suleyman, qui dit non, mais moi, ça ne me gêne pas, c'est les autres. En même temps, ça te gêne. Et voilà, il met à jour le fait que, bon, bah oui, bah, prof homo, ça ne va pas. Ça ne va pas dans sa représentation hétéro-beauf, quoi, pour le dire vite. Bon, bah là, on a fait du bon boulot. Là, c'est pas du tout une perte de temps. Et ça en dit long sur ce prof, je crois, qui ressemble vraiment au prof que j'ai été, c'est dès que je sentais qu'il y avait matière à débat et à réflexion comme ça, un petit peu débridée, ouais, moi, je me jetais dessus. Et tant pis pour le cours, tant pis pour le... alors évidemment, donc on perdait du temps par rapport à, disons, au suivi canonique d'un cours de français, mais bon, on s'en fout des programmes, enfin, pas très grave.
Ouais, moi j'aurais d'abord un petit commentaire à faire. Le film, il nous permet de se placer en tant que spectateur, chose qu'on n'a jamais l'occasion de faire à l'école, soit parce qu'on est professionnel ou soit parce qu'on est élève. Donc c'est ce qui amène aussi à la remarque de la jeune fille qui disait tout à l'heure que la plupart des professeurs ils avaient pas forcément une relation adaptée avec l'élève, ce qui est tout à fait justifié. Enfin, quand on est élève, c'est normal d'avoir cette réflexion. Ceci dit, on voit dans le film que le prof, il est pas non plus apprécié par tous les élèves. Mais voilà, il faut savoir quand même que les professeurs, après, même si les pédagogies ou les méthodologies sont pas toujours bonnes, ils sont quand même là en général pour essayer de sortir quelque chose de bénéfique de la relation prof-élève, quoi. Ensuite, voilà, ce que j'aimerais dire, c'est par rapport à ce film qui nous permet de prendre du recul. Il est plus intéressant de remettre en cause le système, les faiblesses du système, que savoir si les profs sont bons ou les profs sont mauvais, si les élèves sont bons ou pas. Voilà, faut vraiment voir au niveau du système plus que des profs ou des élèves, quoi. Je pense qu'il y a toujours eu des bons profs, il y en a toujours, et voilà, quoi. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai entendu beaucoup de choses, je vais passer le micro, je ne vais pas m'étaler.
Il y a des gens au fond qui sont très dévaporisés, ça c'est mon côté proche de l'injustice.
Juste une question par rapport à la Palme d'Or au Festival de Cannes, c'est quand même une récompense qui voue le film à l'international. Est-ce que d'abord vous aviez l'intention de faire un film qui devait faire une carrière internationale comme on pense qu'il pourra l'avoir ? Une autre question sur le plan concret, qu'est-ce que ça donne les versions en anglais, en espagnol, sous-titrées ? Je pense que ça doit être extrêmement dur à suivre. Et une dernière question, est-ce que vous avez des échos de la manière dont il est perçu à l'étranger ? Non pas parce que là, on a discuté par rapport à la France, essentiellement.
Gros succès en Thaïlande. Très, très... Au Chili, ça démarre, c'est calme. Nos amis, non, le film va se vendre. Le film a été beaucoup acheté à Cannes avant la Palme par le marché étranger. Hein, donc ce film attire le marché étranger très clairement. Est-ce qu'il aura du succès à l'étranger ? Je pense que c'est plutôt bien parti. Là où il est sorti, ça marche assez bien, etc. Donc bon, il y aura ça. Moi, je peux pas vous en dire plus. Je sais pas exactement quoi dire. Sur le sous-titrage, j'ai pas vérifié tout le sous-titrage. J'ai pas eu le temps de faire le sous-titrage grec, par exemple. J'ai pas. Donc, je connais que le sous-titrage anglais, que je trouve qu'ils sont bien démerdés. Je suis pas exactement anglophone, mais j'ai deux trois notions qui me. Je pense. Après, c'est vrai qu'ils ont tous ramé, hein, les sous-titreurs et les traducteurs, comme pour le livre d'ailleurs qui est traduit ici ou là, et à chaque fois, j'ai parfois les traducteurs au téléphone qui rament beaucoup, et ils rament beaucoup plus pour le livre d'ailleurs, qui tourne beaucoup plus autour de la langue que le film. Le film, évidemment, son outil principal, c'est la langue, mais il est beaucoup moins dans les jeux de langue que le livre, et pour cause, parce que l'outil d'un livre, c'est la langue, donc c'était plus facile pour moi, comme romancier, disons, de jouer sur ce matériau. Donc, je pense que le film, au bout du compte, pose pas beaucoup de problèmes. Le seul vrai problème, c'est Pétas. C'est d'arriver à trouver une traduction, non pas de Pétas tel que moi je l'entends, ni de Pétas tel que les filles l'entendent, mais d'un Pétas qui aurait la même équivoque, qui serait à la fois, disons, ce que c'est dans l'esprit du prof, à savoir un truc pas très méchant, genre, une dinde, quoi. C'est ça, une Pétas, ou une pute, et les deux. Et il n'y en a pas beaucoup, visiblement, des traductions possibles. En anglais, par exemple, c'est skank et ça ne rend pas compte exactement de l'équivoque. Donc c'est un problème. C'est un problème. Enfin, je pense que c'est souvent un problème, les traductions des films, en fait. Peut-être, celui-là, finalement, pas beaucoup plus que les autres. Parce que je ne crois pas qu'il soit si linguistique que ça, ce film.
Bonsoir. Alors, autant toi, tu tutoies les élèves, autant moi, je te tutoie parce que tu es un collègue.
Mais je ne vous permets pas.
Mais moi, je vais le faire. Et donc, en fait, ma question, c'est la suivante. C'est que, si j'ai bien compris, c'est en fait une tranche de vie que tu as voulu présenter. On est bien d'accord, sans forcément dénoncer quelque chose ou sans transmettre un message. Et en fait, ici, tout le monde a réagi en disant « Ah, alors le prof, quand il a fait ça, moi, je pense que c'était bien. » Ça a été jugé. On s'est tous plus ou moins identifiés. Au départ, c'est vrai que moi, au départ, je me suis dit « Oh là, moi, j'aurais jamais fait ça dans cette situation-là. » Puis après, je me dis « Hop, non, fais pas ça. Toi, tu regardes et puis voilà, c'est tout. Tu reçois le film tel quel. » Et en fait, la plupart d'entre nous, on avait envie de faire ça. Même les jeunes filles qui sont là, qui sont des élèves, donc, on demandait si ça se passait vraiment comme ça dans la vraie vie, sur Paris, parce que nous, à Toulouse, on n'a que des jeunes sympas. Et l'autre truc, c'est que... Donc voilà, déjà, je me pose la question. Est-ce que tu t'adressais quand même à un public de profs, finalement, d'enseignants ? Et ma deuxième question est une question, c'est une private joke. Est-ce que c'est vrai que tu as eu un chat qui s'appelait Alain ?
Ça reste entre nous. Bonsoir. Enchanté. Bon, bah, je vais essayer de te répondre indépendamment de la deuxième question. Ça, c'est beaucoup plus un motif de tutoiement pour moi que...
Aussi.
Non. Bah, on n'a pas fait... Moi, je n'ai pas fait le livre pour les profs, je n'ai pas fait le film pour les profs. Hein. Je veux dire, on fait un film pour tout le monde, hein, et, ou un livre, hein, vraiment, parce que sinon, ça deviendrait un petit peu une espèce de littérature corpo, quoi, un peu bizarre. J'espère bien que ce livre, d'ailleurs, le livre s'est plutôt vendu, et j'espère qu'il a plu au-delà du cercle des profs. Et le film aussi. Après, non, mais c'est normal. Hein, c'est normal que tout le monde dans la salle se demande « Ah ouais, mais non, le prof, j'aurais pas fait ça, il est comme ci, il est comme ça, je le trouve trop cool, pas assez... » C'est normal, sauf qu'il ne faut pas oublier que c'est exactement ce qu'on se dit pour tous les personnages de cinéma. En tout cas, tous les personnages un peu équivoques. Pas les personnages comme ça qui sont d'un trait. Il y a plein de personnages dans l'histoire du cinéma, mais même dans les séries télé, on se dit « Ah ouais, mais à ce moment, même dans les histoires d'amour, ah ouais, moi, je l'aurais pas rappelé. » Non. Mais c'est un truc de spectateur, quoi. On est là, on s'identifie, on vibre avec eux. Donc Marin, bah c'est oh, qu'est-ce qu'il fout, mais qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est normal. C'est pas pour autant que ce que je prends le grand tort de certaines personnes. Et là vraiment, je dis le tort, c'est de confondre la réticence qu'ils ont par rapport au personnage avec la réticence qu'ils ont par rapport au film. Parce que nous, c'était facile de faire un personnage génial. Hein. Il suffit d'un trait d'écriture. Hein. Je veux dire, Monsieur Marin dit ça et les élèves disent oh, vous êtes trop bon comme prof. Voilà, c'est cool, il est génial, il a raison. Donc nous, on a tout fait pour le rendre plus maladroit, plus faible, plus discutable, parce que voilà, les grands personnages sont discutables. Mais ne pas confondre, et ça c'est le grand problème de certaines tribunes de profs, dans l'IB aujourd'hui, dans le Nouvel Obs il y a deux semaines, la réticence qu'on a par rapport à la méthode de ce prof et la réticence qu'on a par rapport au film. Je veux dire, parce que dans ce cas-là, on n'aime pas le silence des agneaux, parce que je pense qu'on n'adhère pas tous... au personnage d'Anthony Hopkins. Non, mais ça a l'air d'être exagéré, mais finalement, ça me fait le même effet, quoi. Il y a plein de films qui sont animés par un personnage équivoque, discutable, problématique. Je parlais, je sais plus à qui, de voilà. Bah, dans ce cas-là, Le Parrain, c'est nul comme film, parce que Corleone, il fait un peu chier, quoi. Il tue des gens, il laisse des têtes de cheval dans le lit de ses victimes. Bon. Donc, le prof est discutable. On peut détester la méthode de ce prof. Visiblement, il y a vraiment des gens qui pensent que j'ai créé une espèce d'horreur pédagogique. Très bien. Mais ne faisons pas porter au film la vacuité de ce prof, ou en tout cas son incompétence, je ne sais pas. Et c'est là que là, je... Comment dire ? Les profs n'arrêtent pas de demander à leurs élèves, et ils font bien de le dire, c'est leur boulot, et je l'ai fait moi-même comme prof pendant 10 ans. Mettez de la distance par rapport à votre situation. C'est ce qu'on dit aux élèves tout le temps. Sortez de vos référents culturels. Vous avez raison d'écouter du rap, vous avez raison de jouer aux jeux vidéo, c'est pas grave, c'est bien, il y a des trucs super, mais sortez de vous-même, ce que disait la prof de l'esquive. Sors de toi, elle le disait à ce gamin qui essayait de faire du théâtre. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire. C'est la clé de la pédagogie, c'est essayer de sortir de soi. Commencez par vous-même, les profs. Commencez par vous-même. Sortez de vous-même et regardez ce film aussi en fonction d'autres références culturelles et d'autres. C'est évident. On peut pas. Quand on est prof, on le regarde comme prof, c'est normal. Mais gardons un coin de cerveau pour le regarder comme autre chose que prof, qui est spectateur de cinéma universel. Et peut-être que là, ça calmera un peu le jeu, là, parce que. Je dis quelques articles, je m'en fous, moi, ça me touche pas. Hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a commis un impair terrible, quoi, alors que nous, on a juste fait un film qui a eu le malheur d'ailleurs, la Palme d'Or, ça c'est terrible. Et maintenant, on se fait insulter heureusement pas par tout le monde, je pense que le film plaît majoritairement, mais ça mérite pas d'insultes, quoi. Et c'est vraiment des insultes, vraiment. Bon, calme.